France Musique. France Musique.
Et à 10h47, c'est l'heure de tendre l'oreille. 10 minutes, passer le nez dans les partitions pour mieux apprécier la musique. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Et aujourd'hui, vous partez d'un fait divers dans l'Oklahoma pour expliquer la naissance de l'opéra. C'est ambitieux, Christophe.
Oui, effectivement, aujourd'hui, je suis Truman Capote avec son livre « De sang-froid in cold blood » dans les années 60. Je fais d'un fait divers réel une œuvre d'art. Nous sommes à Tulsa, dans l'Oklahoma, le 10 janvier 2016. Il est 10h du matin. Un incendie se déclare, il est vite contenu et seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Les équipes de télévision de News on 6 posent leurs caméras et commencent à récupérer les témoignages. Jusqu'ici, rien de bien exceptionnel. Et puis arrive Michelle Dobin. Michelle Dobin explique globalement comment elle a découvert que son immeuble était en feu et comment elle a protégé ses enfants. Je vais vous passer l'extrait et je vais vous demander de ne pas essayer de comprendre l'anglais, mais plutôt d'écouter la mélodie de ses phrases. Le rythme, comment la voix monte et descend, ses accélérations, ses ralentis.
My friend came to the door. She said, "Well, I was on the phone cooking me and my baby some breakfast." And she said, "Hey, something wrong is popping." I said, "What?" She said, "Yeah." I said, "No." So the girl come downstairs. She come out her apartment with her baby with no shoes on. I said, "Oh, girl, it's cold outside." She said, "Something ain't right." I said, "Oh, man." She said, "Oh, man, the building is on fire." I said, "No, what? I got my three kids and we bounced out. We ain't gonna be in no fire, not today."
On distingue dans son discours une forme de mélodie, comme je disais, parce qu'au fond, une phrase parlée et une phrase chantée, ça n'a pas tant de différence. Par exemple, Gabriel, si je dis « tendez l'oreille », si je prends mon accordeur, là je l'ai à la main, et que je ralentis mon débit, je vais pouvoir identifier les notes dans ma voix. « Tendez l'oreille ». Voilà, je suis sur un mi bémol. Si notre voix parlée fait des notes, eh bien pourquoi ne pas en faire de la musique? Cela nous ramène au début de l'opéra. Je parle 16e siècle, je parle Jacopo Peri, je parle Claudio Monteverdi. Toute cette période un peu transitoire qui veut faire comprendre le texte en abandonnant ponctuellement la polyphonie, mais qui ne se rend pas encore compte de toute la possibilité instrumentale de la voix. Pas de grands airs virtuoses qui mettent la musique avant le texte, je schématise évidemment, mais ça me permet de dire ce que je veux dire. Au début de l'opéra, on met en musique, on retranscrit le discours sous forme de partition et on en fait une œuvre musicale. Monteverdi, le retour d'Ulysse en sa patrie.
Non terminati mai, mai.
La voix de Lucile Richardot, oui, non ?
On la reconnaît bien, on dirait un vrai morceau de chêne, cette voix-là. Revenons donc à notre interview dans l'Oklahoma en 2016. Je vais vous rendre la mélodie de la voix plus évidente en la faisant jouer par un saxophone. Je vais le superposer à la voix, mais promis, je ne change rien à la voix originale. Le saxophone ne joue que les notes de la voix de Michelle Dobin. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a les notes de la mélodie, on peut les faire entrer dans un système plus ou moins tonal avec des accords qui s'enchaînent de façon plus ou moins cohérente.
The building is on fire. I said, "No, what? I got my three kids and we bounced out. There ain't gonna be no fire, not today."
Finalement, ça donne une sorte de récitatif, comme à l'opéra, mais en jazz.
Oui, un texte chanté simplement, pas de grande vocalise, un texte rendu intelligible avec quand même des accords en dessous. Voyons ce que ça donne niveau opéra maintenant. Allons voir du côté de chez Gluck. Justement, en parlant de récitatif, Gluck, en France, face aux Italiens, défend la prééminence du texte et du drame. Il réforme l'opéra pour donner moins d'importance aux castrats qui, eux, mettent le chant avant le texte. Ce qui est marrant, Gabriel, c'est que encore de nos jours, on ne sait pas encore où se placer niveau chant versus texte. Prenez Iphigénie en Tauride de Gluck en 1779. Quel langage accablant tiré de l'acte 2, scène 1. Le débat, c'est d'abord le texte ou d'abord le chant? Sachant que Gluck lui-même défend le texte avant le chant. Première version, Carlo Maria Giolini en 1952.
Reviens à toi, mourant digne de nous. Cesse dans ta fureur extrême, outragé des dieux, épilave, et toi-même. Si le trépas nous est inévitable, quelle vaine terreur te fait pâlir.
Voilà, vous voyez l'idée. Maintenant, on va écouter Marc Minkowski en 2001.
Quel langage accablant pour un ami qui t'aime. Reviens à toi, mourant digne de nous. Cesse dans ta fureur extrême d'outrager les dieux et Pilade et toi-même. Le trépas nous est inévitable. Quelle vaine terreur te fait pâlir pour moi. Je ne suis pas si misérable, puisqu'enfin je meurs près de toi.
Voilà, clairement, la première version prend le temps de chanter et de profiter de la voix. La seconde, plus récente, chante d'abord selon la vitesse naturelle de la voix parlée.
Et dans la musique du XXe siècle, justement, Christophe, parce que je sais qu'on continue à faire de la musique à partir de la prosodie.
Oui, absolument. Il y a le Sprechgesang, il y a le parler-chanté, il y a le Péléas et Mélisande de Debussy. Écoutez la reproduction de la parole en musique, version Debussy.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas.
N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Vous êtes belle.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Je me jette à l'eau.
Je ne vous touche pas.
Christophe, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais quand même, excusez-moi, mais je ne parle pas comme ça dans la vraie vie.
Non, effectivement, on ne parle pas comme ça dans la vraie vie de tous les jours, mais on déclame comme ça, quand on est en public. Dans les premiers temps obscurs du chant, historiquement, l'opéra cherche à augmenter l'expérience de la tragédie, du théâtre, de la tragédie déclamée. Écoutons un peu comment on déclamait du texte à l'époque de Debussy. Vous allez tout comprendre. Sarah Bernhardt déclamant du Phèdre au début du XXe siècle.
Oui, prince. Je languis, je brûle pour tes yeux, je l'aime. Non point celle que l'on dit les enfers. Voilà, j'adorateur, je mis l'objet d'hiver. Qui va du dieu des morts, déshonorer la couche. Mes fidèles, mes fiers, et même ce charmant, jeune.
Ah oui, là tout y est, c'est presque rythmé, il y a du vibrato aussi, il y a une hauteur de note constante en fait.
Absolument, et justement c'est ça qui est chouette avec le XXe siècle, on a les moyens solfégiques et techniques de noter toutes les inflexions de la voix, toutes les petites absurdités et cohérences et incohérences de la prosodie naturelle de la voix parlée. Quittons-nous avec Leos Janáček, compositeur tchèque qui a justement consacré une bonne partie de sa production lyrique à vraiment coller sa voix à sa musique, à la prosodie du tchèque.
Comme je ne parle pas tchèque, je vais le dire en français. Selon mes principes de composition, quand la mélodie est créée par le mot, tout le thème dépend de la phrase. Il y a bien des compositeurs qui peuvent adapter n'importe quel texte à n'importe quelle mélodie à l'emporte-pièce. Et ça, je ne peux pas le faire.
Je suis
première note chantée de la petite renarde rusée de Léos Janáček.
Merci beaucoup Christophe. Nous retrouvons cette chronique, tendez l'oreille sur le site francemusique.fr et je vous dis à samedi prochain.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.